Bonjour et merci de votre présence. Alors, ma conférence s'intitule La fabrique des mots. Le plan de ma conférence est le suivant. Je vais brièvement rappeler d'abord certaines généralités sur le langage. Nous envisagerons ensuite quelques méthodes d'étude de la production verbale. Et puis, surtout, j'essaierai de vous sensibiliser à certaines problématiques actuelles qui tournent autour de la production verbale de mots à l'oral. Alors, on va commencer donc par quelques généralités sur le langage. Alors, qu'est-ce qu'un langage? En effet, on parle du langage des fleurs, du langage des signes, voire du langage des animaux, il existe différentes expressions. Mais de là à définir le langage, on peut dire que cela relève de la gageure, parce qu'il y a beaucoup de définitions. Et comme souvent, trop de définitions nuit à la proposition d'une définition. Alors Mounin, qui est un célèbre linguiste, a écrit qu'une longue tradition philosophique nomme langage tout moyen quelconque d'exprimer des idées. Alors, il est difficile de définir précisément et consensuellement ce qu'est un langage, mais il est possible de le dire comme cela, c'est la capacité à exprimer des pensées via un code. Bien sûr, il est possible d'exprimer ses pensées autrement, par d'autres moyens que le langage, la peinture par exemple. Alors, pour le philosophe Descartes, l'homme est le sommet de la création, et les hommes sont différents par nature des animaux. Pour d'autres philosophes comme Montaigne, entre les deux, il y a des différences de degré. En fait, pour Descartes, le langage est ce qui fait le critère de l'humain. L'homme est capable d'arranger ensemble diverses paroles et d'en composer un discours. Or, les études qui ont été conduites ont montré que les grands singes sont capables d'apprendre un vocabulaire. Jusqu'à environ 100 mots pour les grands singes, mais leur capacité donc d'apprentissage est limitée. Et une étude récente rapporte le cas d'un chien, un border collie nommé Chaser, qui était capable, lui, d'apprendre plus de 1000 mots correspondant à des noms d'objets. Et les noms d'objets étaient associés à des jouets d'enfants ou pour chiens, comme par exemple une peluche correspondant à des lèvres. L'aspect le plus important des études conduites chez les singes est qu'il n'y a pas de création d'expression, de phrases, alors que l'être humain excelle dans sa capacité à créer de nouvelles expressions. Il n'y a donc pas de grammaire chez les grands singes et c'est ce qui nous en distingue, on va dire, fondamentalement. Alors quand le langage est-il apparu chez l'homme? L'homme, on va dire, nos ancêtres. Le langage serait apparu chez Homo erectus il y a environ 1,5 million d'années. C'est donc une habileté très récente si on se réfère aux 4,5 milliards d'années de notre planète. En effet, ramené à une journée, l'Homo sapiens sapiens apparaît à 23h59. Mais le langage tel que nous le connaissons actuellement serait apparu chez Homo sapiens, vers, on va dire, 150 000, 100 000 ans. Il y a 150 000 ans. Le langage oral nécessite un appareil biologique spécifique, l'appareil phonatoire. Et parmi les organes qui participent à la réalisation du langage articulé, il y a la langue, le pharynx, le larynx, les cordes vocales, les poumons, la cavité nasale. En fait, le langage articulé est largement appris. On a mis en évidence que chez des enfants sauvages, chez des enfants privés d'apport culturel, ou des enfants maltraités laissés dans un placard, qui sont abandonnés, ils ne développent pas le langage dans des conditions normales, passé une période critique. Alors le langage est produit à l'oral comme à l'écrit, mais dans notre activité quotidienne, c'est le langage oral qui domine, et ce, même si les échanges électroniques s'accroissent au travers de l'envoi d'e-mails et de SMS. Pour Levelt et Meyer, qui sont des spécialistes de la production orale du langage, nous sommes des toxicomanes de la parole. Et il n'y a pas d'autre habileté cognitive ou motrice autant pratiquée que la production de mots. Il est vrai que nous passons beaucoup de temps à parler à autrui, mais également à nous-mêmes. C'est donc une activité qui est hautement pratique. Pour Roloffs, nous produisons environ 4 millions de mots par an, ce qui est énorme, ou selon d'autres estimations, une étude plus récente de 2007 de Mail et collègues dit qu'on produit environ 16 000 mots par jour. Mais il y a des variations interindividuelles très importantes. Justement, les hommes et les femmes produisent-ils le même volume de paroles? Les femmes sont-elles, comme certains sont portés à le croire, de véritables pipelettes? Eh bien, l'étude de Mail et collègues, déjà citée, tord le cou à cette idée. Car dans une étude conduite aux États-Unis et au Mexique dans les années 2000, les chercheurs ont montré que les femmes ne produisent pas significativement plus de mots que les hommes. Ils ont pu, grâce à un appareil d'enregistrement qui se déclenche automatiquement et de façon non intrusive, ils ont pu montrer que les différences à l'intérieur d'un même sexe, les hommes par exemple, étaient plus élevées que celles observées entre les deux sexes. Et d'ailleurs, dans les 15% les plus bavards, il y a autant d'hommes que de femmes, et la personne la plus bavarde, c'est un homme de l'échantillon. Alors, différentes approches sont possibles, sur le langage. Il y a l'approche philosophique, qui n'est pas la nôtre. Mais pour mémoire, on peut mentionner Platon, qui dans le Cratyle s'interroge sur les relations qui existent entre les mots et les choses. Les mots et les idées. Est-ce que les liens sont nécessaires ou est-ce qu'il y a une relation qui est arbitraire et conventionnelle? Il y a l'approche de la linguistique, qui est une approche scientifique du langage. Je pense que vous avez tous entendu parler de Ferdinand de Saussure, qui est un linguiste connu, tout comme Chomsky par exemple, et qui a proposé la distinction entre signifié et signifiant. Chomsky, la grammaire générative transformationnelle. Il y a enfin l'approche qui est la nôtre, qui est l'approche de la psycholinguistique. Alors, le linguiste, lui, prend comme objet d'étude la langue, il essaie de la caractériser au mieux, comment elle fonctionne, mais il n'a pas normalement le souci d'étudier comment la langue est produite, du moins en théorie. C'est le psycholinguiste qui, explicitement, s'intéresse au comportement linguistique. La psycholinguistique est donc clairement une discipline qui se rattache à ce qu'on appelle la psychologie cognitive, ou plus généralement les sciences cognitives. Alors avant d'entrer sur des aspects qui sont spécifiques de la production du langage, je voudrais quand même présenter quelques petits points sur l'approche cognitive rapidement, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec celle-ci. Alors, quelques points sur l'approche cognitive du langage. La psychologie cognitive considère que n'importe quelle activité mentale à caractère rationnel, mentaux ou cognitifs. C'est donc une perspective analytique qui est adoptée. Il existe une cascade d'événements qui sont mis en œuvre et qui concourent à la réalisation d'une activité mentale. Nous n'avons pas accès consciemment directement à ces événements mentaux. Et aucune technologie permet d'avoir accès directement sur les processus mentaux. C'est pas possible donc de visualiser directement ces événements. Ils ne peuvent être qu'inférés à partir d'une analyse fine et rigoureuse du comportement. Le niveau de description de la psychologie cognitive se situe entre le cerveau et le comportement, d'une certaine manière. L'approche cognitive, c'est d'imaginer des scénarios, des scénarios fonctionnels d'activité mentale à partir de l'analyse du comportement. Sachant que la cognition est sous-tendue par un substrat biologique, le cerveau. Donc l'idée de base, c'est qu'il existe des niveaux de traitement, quelle que soit l'activité mentale étudiée. Ces niveaux de traitement, eh bien, nous, en tant que psychologues cognitivistes, on se doit de les identifier. Combien y en a-t-il? Les caractériser? En quoi consiste-t-il? Grâce à cette approche, on va pouvoir aboutir à ce qu'on appelle un modèle de production. On va formaliser un modèle de l'activité mentale qu'on étudie. Et là, en l'occurrence, c'est la production de mots. Donc, c'est la production de mots qu'on va essayer de modéliser. Le modèle va spécifier les niveaux de traitement qui sont impliqués dans la production verbale, à l'oral, mais également à l'écrit, hein. Là, je ne parlerai que de l'oral. Donc, de l'intention de communiquer une idée, une pensée, un concept, jusqu'à la réalisation articulatoire ou graphique. Donc, les psychologues cognitivistes ont pour tâche de réaliser une modélisation de l'activité et en faisant de la sorte, ils vont mettre de la cohérence autour d'un ensemble de faits sur la production du langage. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous sensibiliser à certains problèmes que l'on se pose lorsqu'on étudie la production du langage. Alors, les chercheurs s'accordent sur l'existence de trois niveaux de traitement qui sont en jeu dans la production verbale. Un niveau conceptuel, un niveau lexical et un niveau articulatoire. Le niveau conceptuel n'est pas du langage, c'est un niveau qui est pré-linguistique. L'idée qui est défendue, c'est que la pensée existe sous un format représentationnel qui est distinct du niveau subséquent, qui est un niveau verbal. C'est une idée qui est par exemple soutenue par Steve Pinker, qui parle du Mentalais, qui a écrit un ouvrage que vous connaissez peut-être, qui s'appelle L'instinct du langage. Je vous recommande. Le Mentalais, donc, ce serait le langage de la pensée. Nous avons un niveau périphérique, qui est le niveau articulatoire, où là, ce sont des commandes neuromusculaires qui vont être mobilisées dans un certain ordre. Ce qui intéresse les psycholinguistes, c'est de déterminer comment on passe des idées aux mots. Alors les chercheurs s'accordent sur ces trois grands niveaux de traitement, mais l'accord s'arrête là. Il y a beaucoup de discussions autour de ces niveaux, et les chercheurs se disputent quant au nombre de niveaux, ou encore sur la façon dont l'information circule d'un niveau de traitement à l'autre. Bon, vous allez me dire tout ça est bien joli, mais comment fait-on concrètement pour étudier la fabrique des mots? Donc quels sont les outils qui sont utiles pour étudier la fabrique des mots? Alors, parmi les méthodes utilisées, il y a l'analyse des erreurs de production, les fameux lapsus. Les fameux lapsus, ils correspondent pour nous à des erreurs d'aiguillage. Comme l'illustrent les exemples, vous voyez, il a reçu la médaille à titre costume au lieu de posthume. Les lapsus correspondent à donc des erreurs d'aiguillage de trajectoire cognitive et ils peuvent parfois prêter à rire. On en a des récents dans les médias. Je vous rappelle par exemple Rachida Dati, qui a dit un lapsus que là, Freud serait content d'interpréter comme révélateur de problèmes ou de préoccupations sexuelles, on va dire. Les lapsus lingués, en fait, ne sont pas si nombreux que cela. Autrement dit, notre moulin à parole est relativement efficace. Il y a un lapsus, un ou deux lapsus pour 1000 mots produits. Alors, les erreurs se doivent d'être distinguées de ce qu'on appelle les ruptures de fluidité dans l'énonciation d'un discours, les pauses pleines ou les pauses silencieuses. Une étude a montré que le nombre d'hésitations au sein de conférences variaient en fonction des disciplines académiques. Elles sont moins nombreuses en mathématiques, chimie et biologie, par exemple, qu'en sociologie, histoire de l'art ou littérature. Alors, cela tient au fait que les options lexicales sont plus nombreuses dans les disciplines dites littéraires que dans celles scientifiques, et non à des caractéristiques personnelles des orateurs, puisque dans des conférences non disciplinaires, le niveau des hésitations est stable entre les différents orateurs des différentes disciplines. Donc on voit déjà que le choix des mots est cognitivement coûteux, puisque plus on a d'options lexicales, plus on a d'hésitations. Alors les pauses, elles peuvent servir à reprendre sa respiration, mais les hésitations, surtout celles à l'intérieur des propositions, correspondent à des actes de choix entre les items lexicaux. Comme nous venons de le voir. Alors, Les linguistes, les psycholinguistes se sont intéressés aux erreurs de production et ils en ont noté la régularité. C'est une méthode qui nécessite de la patience parce qu'il faut répertorier un nombre important d'erreurs. Et lorsqu'on dispose de suffisamment d'erreurs, on peut commencer les analyses. Donc ça nécessite d'analyser de nombreux discours radiophoniques, des pièces de théâtre, des conférences, des émissions de télévision. Il faut repérer les erreurs et puis il faut ensuite les catégoriser pour après les interpréter. Donc on peut avoir recours à des techniques expérimentales, donc dites de laboratoire, lors desquelles on cherche à provoquer les erreurs. Et l'objectif est le même, hein. Il s'agit d'inférer les processus et les représentations qui sont impliqués, parce que les erreurs sont conçues comme des traces qui sont laissées par les processus mentaux. Processus qui, comme je le rappelle, ne sont pas observables directement. Les erreurs, elles sont donc informatives sur la nature des représentations, sur les unités, si vous voulez, que le cerveau utilise. Le travail, il est en cela proche de celui du paléontologue qui va utiliser des fossiles pour faire des inférences sur, par exemple, les dinosaures. Alors, un phénomène que l'on exploite fréquemment en psycholinguistique pour étudier la production verbale, c'est le phénomène du mot sur le bout de la langue. Alors, vous avez tous connu cette expérience désagréable, on cherche un mot qui ne vient pas. Alors, ça se produit surtout avec des noms propres, comme quand on croise quelqu'un, un collègue de bureau par exemple, avec sa compagne, et on veut le présenter. Alors, on est parfois très très mal à l'aise. Parce qu'on est en face du collègue et on ne peut pas récupérer son nom, on veut le présenter à son ami, donc c'est très gênant. Alors, les situations de mots sur le bout de la langue ne sont pas exceptionnelles. Les chercheurs ont montré que ce phénomène était présent dans toutes les langues. Il augmente avec l'âge, il porte plus souvent sur les noms propres que sur les noms communs, et quand il porte sur les noms communs, c'est plutôt sur des mots communs rares. Par exemple, si je vous donne les définitions suivantes, on va faire un petit jeu, comme ça vous faites entre, comme ça sur votre. Vous ne faites pas collectivement, hein, vous faites à titre privé. Donc, si je vous donne les définitions suivantes, appareil servant à la distillation, vous devez essayer de trouver le mot qui correspond à la définition. Rocher à fleur de peau dans la mer sur laquelle un bateau peut s'abîmer. Système servant à faire passer les péniches en amont ou en aval d'un changement de niveau. Est-ce que vous avez éprouver un état de mots sur le bout de la langue pour certaines de ces définitions. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui se disent ah, je sais, mais ah, ça vient pas. Alors, je vous donne les réponses. Alambic, écueil et écluse. Voilà, hein, donc maintenant vous avez les réponses. Si effectivement, le mot que vous cherchiez est celui que je viens de vous donner et vous ne l'avez pas récupéré, ben voilà, j'ai résolu votre mot sur le bout de la langue. Donc, dans un état de mot sur le bout de la langue, des informations partielles sont disponibles. Donc, on peut utiliser ce phénomène pour avoir accès aux représentations qui sont en jeu dans la production du langage. Les chercheurs vont provoquer des états de mots sur le bout de la langue en ayant, par exemple, recours à des définitions de mots rares, comme on vient de le faire. Dès qu'un participant se trouve dans cet état, donc il le signale, et on va sonder ce qu'il peut récupérer grâce à un questionnaire. Et je passe les détails, mais grâce à l'analyse des mots sur le bout de la langue, on a pu proposer des hypothèses sur les briques que le cerveau utilise pour fabriquer les mots. Alors il existe aussi des tâches qui clairement, très clairement, relèvent du laboratoire. Ce sont des tâches où on va mesurer des vitesses de réaction, des vitesses de dénomination. Ainsi, on a recours à des images. Elles sont projetées sur un écran d'ordinateur et le participant doit fournir le nom de l'image le plus vite possible. On peut mesurer la vitesse de dénomination grâce à un dispositif spécifique d'enregistrement, un micro qui est relié à un ordinateur. L'idée, et puis un logiciel qui pilote l'ensemble, l'idée c'est que cette tâche opérationnalise une situation plus écologique, où un individu part d'une idée qu'il veut communiquer. Par exemple, je veux communiquer qu'un avion passe dans le ciel. Sauf que, évidemment, si vous devez attendre qu'un individu ait l'idée en tête et produisent des noms. Si vous voulez mesurer ça, vous n'aurez jamais. Donc, il faut provoquer l'intention de communiquer une idée. C'est ce qu'on fait en laboratoire. Alors, on peut aussi, et enfin, avoir recours à des méthodes intéressantes, mais qui sont plus complexes, on va dire, à utiliser, qui imposent des contraintes élevées. Elles sont aussi coûteuses, parfois coûteuses au sens strict du terme, c'est-à-dire financièrement parlant, mais aussi coûteuses en temps. Ce sont les méthodes neurophysiologiques, comme l'enregistrement des potentiels évoqués, ou encore l'imagerie cérébrale par résonance magnétique fonctionnelle, ou la tomographie par émission de positrons. Alors, ces méthodes ont le vent en poupe, mais il faut rester prudent quant à leur pouvoir explicatif. Alors, l'IRM-F, je passe les détails, c'est une méthode qui est assez compliquée, qui nécessite une machinerie lourde. Hein, c'est une machine, un énorme aimant qui permet de connaître les variations de débit sanguin quand on réalise une tâche donnée, comme par exemple produire un mot. Alors, nous allons maintenant attaquer certaines problématiques actuelles. Mon objectif est de susciter de la curiosité, vous inviter à aller plus loin. Alors, parmi les problématiques actuelles, il y a celle qui concerne le nombre de niveaux de traitement qui sont nécessaires pour fabriquer les mots. Alors, pour prendre une analogie, on peut prendre celle de la recette de cuisine. On sait que pour faire une recette de cuisine, il faut des ingrédients, et ces ingrédients sont insérés dans un certain ordre. Eh bien, la question là, c'est quels sont les ingrédients de la fabrique des mots? Alors, un aspect que nous avons pu bien mettre en évidence et qui est bien établi maintenant, c'est que les mots ne sont pas prêts à l'emploi lorsqu'on souhaite communiquer une idée. Autrement dit, les mots ne sont pas cueillis dans le jardin cérébral des mots pour prendre une formule poétique. Comme déjà dit, les chercheurs s'accordent sur l'existence de trois niveaux de traitement. Conceptuel, lexical et articulatoire, mais l'accord s'arrête là. Alors, quels sont les moyens? On parlera des mécanismes et des unités de représentation qui sont nécessaires pour fabriquer les mots. Donc, comme je l'ai dit, produire un mot, ce n'est pas un simple processus d'appariement entre une forme verbale globale et une idée, un concept. Le point de départ de la communication, c'est l'intention d'exprimer une idée. Et comme déjà dit, c'est un processus qu'on appelle la conceptualisation. À ce niveau, le concept que l'on souhaite communiquer, transmettre est activé, comme par exemple chien et d'autres concepts qui lui sont associés, comme chat, aboyer. Cette activation va permettre celles d'autres types d'unités qui sont impliquées dans la fabrique des mots. Ces différentes unités ne sont pas toutes mobilisées en même temps, mais à des moments privilégiés. Ainsi, des unités qu'on appelle des lemmas en jargon psycholinguistique, des unités lemmas, donc relatives aux informations sur la catégorie grammaticale du mot et sur le genre grammatical, sont activées préalablement à celles qui correspondent au phonème et à la métrique du mot. On parle là de lexème pour ces dernières unités. Enfin, les informations lexémiques vont permettre la création des syllabes qui seront exécutées par notre appareil phonatoire, donc ce que nous articulons. Ce sont des gestes syllabiques. Alors, il est nécessaire, en effet, de connaître la catégorie grammaticale des noms pour respecter la syntaxe au sein d'une langue. Par exemple, en français, on dit la voiture bleue et l'adjectif est placé après le nom. L'information syntaxique est donc nécessaire pour produire les mots aussi dans le bon ordre. Alors, il y a des débats sur est-ce que les informations qui relèvent de la syntaxe du genre grammatical sont séparées de celles sur la sonorité. Il y a un débat donc autour de cela, mais il y a des arguments qui sont en faveur de la séparation. Ainsi, des études conduites sur le phénomène du mot sur le bout de la langue attestent que dans un tel état, des informations conceptuelles sont disponibles. On sait pertinemment ce que l'on veut dire, comme elle portait autour du cou un appareil de maintien des vertèbres cervicales, proéminaires. Mais généralement, des informations sur le genre et la catégorie grammaticale sont aussi disponibles. On le sait parce que quand on interroge quelqu'un qui est dans un état de mot sur le bout de la langue, il peut deviner correctement le genre et la catégorie grammaticale. Ce qui fait défaut, c'est l'intégralité des informations sur la sonorité. Et de sorte que le mot ne peut pas être énoncé oralement, complètement, totalement. Autrement dit, dans un état de mot sur le bout de la langue, les concepts et les lemmas sont activés, tandis que les lexèmes ne le sont que partiellement. C'est ce qu'a montré, par exemple, Ludovic Ferrand de l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand en 2001. Il a montré que dans un état de mot sur le bout de la langue, on récupère très clairement les informations grammaticales à hauteur de 4, plus de 80%. C'est-à-dire, si on demande à quelqu'un qui est dans un état de mot sur le bout de la langue de deviner quel est le genre du mot, par exemple, vous cherchez le mot Minerve, vous n'arrivez pas à le retrouver, et on vous dit, est-ce que c'est masculin ou féminin, à votre avis? Eh bien, vous ne dites pas n'importe quoi. C'est-à-dire, si vous disiez en fait n'importe quoi, vous auriez en fait 50% de chances d'avoir juste, hein, puisqu'en français, il n'y a qu'une chance sur deux pour le genre. C'est féminin ou masculin. Or là, dans plus de 80% des cas, vous avez juste quand vous êtes dans un état de mot sur le bout de la langue. Donc ça signifie que ces informations sont disponibles, alors même que la forme sonore vous fait défaut. Alors ces dernières années, au-delà de la caractérisation des niveaux de traitement, un souci a été de, en quelque sorte, de matérialiser les niveaux de traitement, c'est-à-dire quelles sont les aires cérébrales qui sous-tendent les différents niveaux de traitement. Ainsi, vous avez des études qui ont cherché à aussi, donc avec des techniques comme les enregistrements de l'électricité cérébrale, ces études ont cherché à préciser le décours temporel d'actualisation de ces différentes unités. Alors, l'idée, c'est à quel moment tel type d'unité est actif, puis tel autre. Un parlant moyen produit environ 3 mots par seconde. Et lorsqu'un adulte produit un mot isolé à partir de la présentation d'une image, cela prend globalement entre 600 et 1200 millisecondes. Toujours en dénomination d'image, quand on produit un mot isolé à partir de la présentation d'une image, le choix du mot, la sélection du mot, et c'est un des mécanismes fondamentaux de la fabrique des mots, ça s'est réalisé dans les 300 millisecondes qui suivent la présentation de l'image. Alors, donc, une autre problématique que je souhaite envisager rapidement avec vous, donc au-delà de la question des quelles sont les unités qui sont impliquées dans la fabrique des mots, une autre question, c'est est-ce que les mots s'imposent dans notre tête? Une autre question de recherche, donc, c'est celle-là, est-ce que lorsqu'on perçoit une scène, le nom des objets s'impose dans notre tête, ou bien est-ce que les mots ne viennent à l'esprit-cerveau que quand on veut exprimer verbalement un concept? Ainsi, si je dis à un interlocuteur dans la chaise, du fait de la contiguïté spatiale de la chemise, la veste avec la chaise, est-ce que la veste va être activée en parallèle, le mot veste, j'entends, va être activé en parallèle de celui chaise. Et ce, même si je souhaite communiquer uniquement l'idée de chaise. Alors pour étudier cette question, les chercheurs ont recours à une technique de laboratoire qui est très particulière. Des participants doivent dénommer une image. Donc vous regardez par exemple, voyez les deux images qui sont l'une sur l'autre. Donc il doit dénommer par exemple une image, celle qui est entrée vert. Et il doit tenter d'ignorer une autre, entrée rouge. Donc les deux images sont superposées. Là, vous voyez que on a manipulé la relation entre les deux images. Les noms des images commencent par ch, chemise, chaise. Donc on peut, en situation de laboratoire, jouer sur la ressemblance entre les noms d'images. Donc les noms, là, ici, sont reliés phonologiquement, ch, hein, chaise et chemise. Eh bien, prenons un autre exemple. Lorsque les noms des images sont reliés, là, vous avez canard-camion, donc les deux images sont reliées uniquement par la sonorité. Alors que, par exemple, l'image en vert, canard avec une pomme superposée, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de ressemblance, d'aucune manière. Eh bien, des résultats de laboratoire ont montré que les temps de dénomination étaient plus courts lorsque le participant devait dénommer canard avec en superposition l'image d'un camion, comparativement au cas où le canard était présenté avec l'image d'une pomme. Ça suggère quoi ? Eh bien, ça suggère que même si le participant veut exprimer verbalement uniquement canard, le nom de l'image en rouge s'impose à l'esprit. D'où la facilitation de dénomination. On va plus vite pour dire canard quand on a une superposition avec camion qu'avec pomme. Donc, les mots semblent s'imposer dans notre tête, mais est-ce qu'ils le font automatiquement? C'est-à-dire tout le temps. Est-ce que chaque fois que l'œil se pose sur un objet, hop, ça y est, son nom est actif dans notre tête, même si nous n'en avons pas conscience? Alors, des résultats de recherche récents montrent que cela dépend, entre autres choses, de la difficulté de traitement de la cible à dénommer. Il est possible de rendre l'image à dénommer, ou l'image qu'on appellera contexte qui encadre, plus difficile à traiter, en diminuant par exemple la visibilité. Donc on peut par exemple présenter à des participants une situation où vous donnez une image cible qui doit dénommer, par exemple la table, et vous voyez bien que là, pour reconnaître la table, ça prend un peu plus difficile, hein, parce que la table, une partie des traits sont effacés. Eh bien, dans une étude, des participants devaient donc dénommer une image cible comme table. L'image cible, vous voyez, elle était présentée avec une autre image qu'on appellera l'image contexte, comme arbre. La question, c'est est-ce que quand on doit dénommer l'image cible table, eh bien, le nom arbre, alors qu'on ne doit pas le dire, est quand même activé, est quand même actif. Alors, comment est-ce qu'on a testé ça? Vous allez voir, c'est un petit peu compliqué. Les participants, ils devaient dire le mot donc table, et ils entendaient par l'intermédiaire d'un casque un mot, qu'on appellera un mot distracteur. Alors, le mot, il pouvait être relié à l'image cible, par exemple, tarte. C'est relié à table. Donc il est relié là à l'image cible, ou bien un autre mot pouvait être présenté dans le casque, par exemple armoire, qui là est relié à arbre, donc l'image contexte, qui ne doit pas être dénommée. Ou bien il y avait un nom non relié à aucune des deux images. Ce nom non relié, c'est la condition contrôle qui est nécessaire pour comme point étalon, sinon on ne peut rien dire de l'influence d'armoire et de table. La vitesse de production était à chaque fois enregistrée. Eh bien, les résultats ont montré, je passe les détails, que dans une situation comme celle-là, quand on a une table qui est difficile à percevoir, vous voyez, parce que les traits sont en partie effacés, eh bien, je donne les résultats de l'expérience. On s'aperçoit que dans ce cas-là, arbre n'est pas activé. Le nom de l'arbre, le nom de l'image arbre n'est pas activé. Tandis que dans une situation où on peut percevoir clairement les deux images, eh bien là, on s'aperçoit, c'est les résultats expérimentaux qui le montrent, en jouant sur donc les distracteurs, je passe hein, franchement des détails, mais si vous voulez en discussion, on pourra bien sûr y revenir, je pourrais vous détailler l'expérience. Dans la situation où les images sont effectivement clairement visibles, les deux noms sont activés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, c'est seulement quand on a suffisamment de ressources attentionnelles à consacrer aux deux images, quand elles peuvent être traitées optimalement, que le nom des deux images est actif. Quand l'une des deux images accapare de l'attention parce qu'elle est plus difficile à traiter, Par exemple, vous devez dire table et table requiert toute votre attention pour être identifié en tant que tel. Alors, le nom de l'image correspondant à un objet qui est à côté, comme arbre, son nom ne sera pas activé. Ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas, qu'on n'identifie pas l'arbre, on l'identifie. Mais le nom d'arbre, lui, reste non activé. Une autre question de recherche qui est peut-être un petit peu plus facile, on va dire, à comprendre, c'est la question de la vitesse d'accès aux mots. Quels facteurs ont un impact? Je vais vite, hein, pour dire un mot, par exemple, pomme, et je vais moins vite pour en dire un autre, par exemple, harpe, à partir de la perception de ces deux objets. Est-ce que c'est parce que les idées qui sous-tendent ces mots sont plus familiers? Ou c'est dû aux caractéristiques des mots eux-mêmes? Ou bien y a-t-il un impact de différentes propriétés? Alors, il y a un facteur qui apparaît intuitivement fondé, c'est la codabilité. Le fait que certains objets peuvent sans ambiguïté recevoir une étiquette verbale, alors que pour d'autres c'est moins évident, ils peuvent être nommés de manière différente. Hein. Vous voyez sur l'image qui est à votre gauche, bon, c'est pas facile d'identifier ce que c'est. C'est un ballon, une balle, un lasso. Donc il y a le cas des images ambiguës, où là, effectivement, comme il y a plusieurs possibilités de réponse, ça prend plus de temps hein, dans cette situation pour dire le nom que quand on a une image qui est sans ambiguïté dénommée, comme l'image d'un panier. Une étude récente a montré que la codabilité était un facteur très important sur la vitesse et la précision de la dénomination et des images en couleur, par exemple, c'est dénommé avec plus de précision et plus rapidement que les mêmes images en gris, en zone de gris ou en trait, de noir et blanc. Pourquoi ? Parce que la couleur est une information qui clairement améliore la reconnaissance de l'objet et donc, puisqu'il y a de la reconnaissance d'objet dans la dénomination, ça améliore globalement la production des mots. Alors, un facteur auquel les chercheurs ont bien vite pensé, c'est la fréquence des mots. On rencontre certains mots plus fréquemment que d'autres, on les entend plus souvent, on les voit plus souvent, on les lit plus souvent, on les produit aussi plus souvent, et donc on peut s'attendre à ce que les mots qui sont fréquemment rencontrés dans l'environnement soient produits plus vite que les mots. Alors, la fréquence, c'est un indice statistique, et pour la mesurer, ce n'est pas une chose aisée, hein, il faut calculer le nombre de fois qu'une forme lexicale apparaît dans un ensemble vaste de mots, ce qu'on appelle un corpus, et pour le français, on dispose donc de normes de fréquence, qui sont consultables sur Internet. Par exemple, lexique.org, pour des fréquences adultes, ou Manulex, c'est le nom des bases de données, pour des fréquences enfants. Les chercheurs ont mis en évidence qu'il y avait une relation linéaire entre les vitesses de dénomination et la fréquence des mots. Une relation linéaire qui est évidente quand les fréquences sont transformées en logarithmes, je passe les détails. Donc ça montre quoi? Que les latences sont autant plus courtes pour produire le nom d'un objet que la fréquence du nom de l'objet est élevée. Alors, face à ce résultat ou un tel résultat, on peut être surpris, on peut se dire que bah, si c'est une trouvaille de la psycholinguistique, c'est plutôt trivial. Cependant, ce qui apparaît comme intuitivement fondé le devient très vite, de moins en moins, en sciences psychologiques, dès lors qu'on se penche sur le problème de façon plus approfondie. Mais même si c'est trivial, même si c'est intuitivement fondé, l'édifice scientifique ne peut se construire sur des intuitions. En tous les cas, les choses se sont rapidement complexifiées concernant la fréquence, parce qu'il a été mis en évidence qu'il n'y a pas que la fréquence totale de rencontre qui compte pour la vitesse d'accès aux mots en mémoire, il y a aussi l'histoire des variations de fréquence. C'est-à-dire que les mots ont en quelque sorte une trajectoire de fréquence dans le temps. Il y a des mots qui sont plus fréquents quand on est adulte que quand on est enfant, comme « taxe », alors que d'autres sont moins fréquents à l'âge adulte que pendant l'enfance, par exemple « dragon » ou « vélo ». D'autres, enfin, ont une trajectoire plus plate. Ils bougent peu en fréquence, comme « maison ». Eh bien, on a montré que les mots qui étaient très fréquents pendant l'enfance étaient dénommés beaucoup plus vite que ceux qui l'étaient moins et qui le devenaient et qui variaient donc dans leur trajectoire de fréquence, c'est-à-dire ils étaient moins fréquents pendant l'enfance, mais ils devenaient plus fréquents au fur et à mesure de l'apprentissage de la vie. Donc, vous voyez que sur un paramètre qui paraît a priori simple, trivial, il y a tout un tas de questions de recherche qui se sont posées, qui se posent, et qui ont montré que bah, les choses étaient moins simples sans doute que a priori pensées. On termine par un dernier problème de recherche qui est relativement récent, là, cette fois. C'est la question des ressources cognitives dans la fabrique des mots. Alors, est-ce que produire du langage, c'est cognitivement coûteux? La réponse est clairement oui. Et j'en veux pour preuve le fait que, ben, dans une étude, par exemple, on avait une situation de double tâche, c'est-à-dire des adultes devaient s'exprimer à l'oral tout en conduisant. Alors, la conduite, bien sûr, chez de nombreux adultes, elle est très automatisée. Mais en même temps, bon, si parler, ça coûte, ça risque d'avoir des répercussions sur la conduite automobile. Au contraire, parler, c'est une activité qui est tellement pratiquée qu'on la fait sans même y penser, sans y consacrer de l'énergie mentale. À ce moment-là, sans doute que la conduite automobile va s'en ressentir. Eh bien, dans une étude conduite avec un simulateur automobile, il a été montré que sur différents paramètres de la conduite automobile, les participants produisaient moins vite lorsqu'ils devaient raconter en même temps une histoire que lorsqu'ils ne faisaient que conduire. En fait, si parler était une activité ben, peu nécessiteuse en ressources attentionnelles, la conduite n'en aurait pas été affectée. Alors, de nos jours, hein, de plus en plus de personnes conversent à l'aide de téléphones portables, et dans une telle situation dialogique, il a été montré que l'attention des individus était tellement parfois accaparée que des événements qui sont inattendus et baroques, et qui se produisaient dans l'environnement immédiat, n'étaient même pas remarqués. Dans une étude de terrain, vous aviez des observateurs qui étaient placés à des endroits stratégiques d'un square où un clown faisait du monocycle. Eh bien, après avoir traversé le square, les observateurs allaient vers les individus afin de leur demander s'ils avaient vu le clown en question. Il est apparu que 75% des individus en pleine conversation téléphonique n'avaient pas remarqué le clown, tandis que 51% de ceux qui se promenaient seuls ou 61% de ceux qui écoutaient de la musique l'avaient par contre bien remarqué. Alors, on est sur la fabrique des mots. Est-ce que la fabrique d'un mot, elle, ça nécessite de l'énergie mentale, de l'attention, ou est-ce que c'est automatique? On a déjà vu hein, que ben non, le choix des mots, par exemple, était cognitivement coûteux. Eh bien, je vais terminer par une dernière illustration qui montre que la fabrique des mots, elle est cognitivement coûteuse. C'est la dernière expérience de mon exposé et je vous demande toute votre attention. Donc, dans cette étude, on avait une tâche de dénomination d'image qui était couplée à une autre de détection de son. Je m'explique. L'expérience était pilotée sur ordinateur. Vous avez des participants qui devaient dénommer une image, par exemple celle d'un lit. Après, juste après avoir lu une image, pardon, une phrase porteuse. Cette phrase, elle permettait soit d'anticiper facilement le nom de l'image, par exemple, Paul était fatigué, alors il est là-haut, là vous anticipez lit. Soit la phrase ne permettait d'anticiper aucun mot. Vous allez voir l'image d'un. Et donc l'idée, c'était que la sélection lexicale en dénomination, elle serait plus facile avec des phrases biaisées, donc Paul était fatigué, donc il alla au lit, comparativement à des phrases neutres. Donc les participants devaient donner le nom de l'image qui apparaissait sur un écran d'ordinateur après avoir entendu une phrase porteuse. Et en parallèle de la dénomination, vous voyez qu'on est un peu tordu hein, dans nos expériences de laboratoire, ils entendaient par l'intermédiaire d'un son, ils entendaient, pardon, par l'intermédiaire d'un casque un son qui était présenté quelques millisecondes après la présentation de l'image. Et le participant devait, quand il entendait le son, le classer, c'est-à-dire est-ce que c'est un son avec une hauteur tonale haute, moyenne ou basse, avec des boutons réponse. Donc le participant, il est dans une situation de double tâche. Il doit, quand il entend un son, le catégoriser et puis il doit donner le nom de l'image. Ce qui a été observé, c'est que, bon, bah comme attendu, vous ne serez pas surpris, les vitesses de dénomination étaient plus courtes après le traitement d'une phrase biaisée qu'après celui d'une phrase neutre, mais ça c'était l'objectif de la manipulation. Quand c'est facile de choisir le nom de l'image, on va plus vite. Mais le plus important, c'est que, en fait, ça se reportait, cette facilité de sélection, sur les vitesses de catégorisation. La difficulté, si vous voulez, de production, de sélection du nom de l'image, se reporte sur les temps de catégorisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que le processus de sélection lexicale, le choix des mots, requiert de la concentration mentale, de l'énergie mentale. Si la sélection des mots est un processus complètement automatique, qui ne consomme pas de ressources, eh bien vous pourriez sans aucun problème catégoriser les sons tout en effectuant la sélection. La catégorisation de sons ne devrait pas être affectée. Donc, la fabrique des mots, c'est une activité dont on n'a pas conscience, qui se déroule vite, mais qui nécessite de l'énergie mentale. Donc voici la fin d'un exposé sur quelques problématiques de la fabrique des mots qui se posent aux chercheurs en production du langage à l'oral. J'espère que malgré la complexité de certaines présentations, vous en avez saisi la substantifique moelle. Alors je serais maintenant un démagogue si je vous disais qu'on sait aujourd'hui parfaitement comment utiliser ces connaissances pour éclairer l'enseignement du français ou des langues en général, pour soigner des patients atteints de troubles du langage, ou pour enseigner dans des classes. Hein. En fait, ces connaissances sont utiles pour l'enseignement et pour éclairer la mise en œuvre d'une remédiation. Mais il faut comprendre qu'il faut rester modeste actuellement quant à la portée des recherches. D'une part, ces recherches sont récentes et elles demandent à être complétées, fortement, et ça va prendre du temps, les sciences cognitives sont jeunes. D'autre part, en sciences cognitives, les résultats sont souvent instables. Je veux dire par là que d'une situation à l'autre, les résultats peuvent varier en fonction d'un certain nombre de paramètres. Il faut donc, effectivement, stabiliser cet ensemble de connaissances avant de s'aventurer dans l'élaboration de propositions pour comment enseigner, comment soigner. C'est un peu, on va dire, sur certains points, sans doute prématuré. Je vous remercie vraiment pour toute votre attention.